Vous êtes sur RTL.
Il est 18h39, le deuxième invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, les cartons rouges de l'homme en noir. Bonsoir Tony Chaperon.
Bonsoir monsieur Fogiel.
Dis-moi, après votre tacle contre un joueur de Nantes qui a provoqué la fin de votre carrière, vous publiez un livre objectivement passionnant, Enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable chez Artaud. Un livre où vous revenez sur vos 14 ans au plus haut niveau de l'arbitrage, mais aussi sur le foot business, et évidemment sur l'épisode qui a fait qu'on vous a connu peut-être un peu trop. Vous balancez pas mal, j'imagine que vous ne vous êtes pas fait que des amis depuis la sortie du livre. Hein.
En fait, j'ai beaucoup de messages de sympathie de la part de mes collègues arbitres.
C'est vrai, parce que vous brisez l'omerta.
C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas parler et ils trouvent en moi une sorte de porte-parole, donc c'est plutôt satisfaisant.
Ils peuvent pas parler parce que vous racontez finalement l'omerta chez les arbitres, la volonté de faire de vous de bons petits soldats de la Fédération Française de Foot. Vous dites la parole est réellement muselée. L'une des premières choses qu'on apprend en devenant arbitre, c'est se taire, à se soumettre. Pourquoi, Tony Chaperon? Pourquoi on veut comme ça vous museler, vous les hommes en noir, enfin la Fédération?
Je crois que malheureusement, on se trouve dans un système où on accorde assez peu de place à l'arbitre, au sens où on a l'impression que libérer un arbitre serait contre-productif, en se disant les arbitres ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils s'expriment trop, ils parlent trop, et en fait là on cadenasse tout, et en fait on vit en vase clos.
C'est ça.
Et ça c'est terrible.
14 ans en vase clos, 14 saisons en Ligue 1, vous avez arbitré 1500 matchs au top niveau, au départ vous étiez joueur, vous interrogez d'ailleurs sur votre vocation, est-ce le côté justicier, le côté missionnaire désigné pour protéger le jeu, ou le besoin de faire le plein de ma 103 Peugeot? C'est quoi la réponse pour vous?
Ouais, je crois que j'ai une sorte d'idéalisme du football, moi j'aime ce côté jeu, plaisir, et en étant un peu le missionnaire de l'éthique du jeu, je me suis révélé. En fait.
Et vous avez atteint le haut niveau. 2004, c'est la Ligue 1. Cette carrière qui se termine donc le 14 janvier 2018, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous gardez un goût d'inachevé?
Certainement, parce que j'aurais aimé finir ma carrière autrement. Ça a été douloureux, à tout point de vue, d'un point de vue personnel, mais aussi familial. Et puis, quand on termine une carrière sur un fait comme celui-ci qui a fait beaucoup parler, c'est pas l'image qu'on veut laisser.
On raconte le fait, évidemment, c'est pas tout le livre, mais c'est quand même le cœur du livre. Ce jour-là, vous êtes devenu l'arbitre tacleur. Nous sommes à la fin du match Nantes-PSG. Paris mène 1-0. Mbappé se dirige vers le but. Lorsque le joueur de Nantes, Diego Carlos, vous pousse, vous le taclez. Scandale partout en France. Ces images, déjà, vous les avez vues, revues, re-revues?
Oui, j'ai mis un peu de temps. Je les ai regardées tout de suite après le match, quand je suis rentré à l'hôtel. Et puis après, j'ai eu une longue période de traversée du désert où j'ai pas voulu les regarder parce que c'était traumatisant. Je l'ai fait un peu plus tard. Et puis le livre a aussi permis d'expliquer, mais en fait il était commencé depuis très longtemps.
Vous aviez envie de raconter des choses?
Oui,
évidemment pas cet épisode qui n'était pas prévu.
Non.
Mais donc finalement vous êtes penché dans le livre, quoi.
Ça a rajouté un gros chapitre et ça a aussi permis de situer l'arbitre sur l'échelle de l'institution.
Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé déjà ce soir-là? Pour vous avez perdu le contrôle, c'est quoi? C'est un coup de folie? C'est peut-être finalement toute cette frustration d'arbitre, cette lassitude chez vous qui repart dans ce mauvais geste?
Non, je crois que c'est complètement irraisonné. C'est-à-dire que c'est un geste réflexe. J'ai mal, je suis fatigué et j'ai peur et je suis surpris. Donc tout ça, mis bout à bout, j'ai un réflexe stupide d'homme, en fait, qui tombe, qui se sent agressé et qui réagit.
Puisque vous l'écrivez, je sens une forte poussée dans mon dos, je perds l'équilibre en même temps que le contrôle du match. En une fraction de seconde, je ne vois plus rien, je roule dans le gazon, je perçois un genou à hauteur de mon visage, je suis surpris, j'ai peur de prendre un coup, je sens une douleur immédiate dans le dos et mon mollet blessé. Je viens de perdre de vue le ballon, allongé sur la pelouse, j'ai perdu le fil du match et sûrement dans ma tête, perdu mon statut d'arbitre. Dans un réflexe stupide, je tends la jambe, autant par souci de protection que par frustration et énervement. Vous pensez que Diego Carlos, en le comprenant dans le livre, finalement, c'était pas un geste finalement qui lui a autant échappé que ça?
Je dis que c'est un accident. Donc c'est une rencontre fortuite. Mais je dis qu'ensuite, je trouve que son attitude aurait mérité qu'on s'intéresse à ça. C'est-à-dire que quand vous bousculez quelqu'un, votre premier réflexe, c'est de dire « excusez-moi, pardon ». Et là, il n'a pas eu ce geste. Alors ça m'a un peu bouleversé par la suite.
Après, vous racontez comment tout ça s'enchaîne. D'ailleurs, vous avez l'impression d'être un pestiféré. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le président de Nantes qui vient vous voir, puisque vous mettez un carton jaune d'abord à Carlos, qui se transforme en rouge puisqu'il en avait déjà reçu un. Et il vous dit, finalement, retire le rouge à mon joueur. Et je dis à la presse que ce n'est pas grave. C'est un chantage que vous n'acceptez pas. il n'y aurait pas eu d'affaire, en fait, si vous aviez retiré votre carton. Mais finalement, le truc s'enchaîne comme ça.
Je l'ai retiré. Et en fait, le malheur de cette situation, c'est que je suis allé au bout de ma démarche. C'est-à-dire, j'ai pensé qu'il l'avait fait exprès, et donc je l'ai exclu. Et après, s'ensuit une négociation un peu étrange en termes de communication médiatique, puisque moi, je ne peux pas parler.
Ouais,
on m'interdit de le faire.
On vous interdit de parler, mais le lendemain, le patron des arbitres, Pascal Garibian, lui, il vous lâche par un communiqué à la radio. Clairement, il profite peut-être pour éliminer la grande gueule que vous êtes, non ? C'est un peu ça comme ça ? On décrypte ça dans votre livre, en tout cas.
On peut le subodorer, mais on peut le décrypter comme ça. C'est l'occasion est rêvée. C'est-à-dire qu'on peut se débarrasser du vieux petit canard que j'ai été tout au long de ma carrière, parce que j'ai été président du syndicat, parce que c'est moi qui l'ai créé.
Il y a de ça derrière. Vous dites d'ailleurs, vous le laissez entendre, si ça avait été un autre arbitre que vous, par exemple Clément Turpin, qui incarne à vos yeux le chouchou de la Fédé, ça ne serait pas passé comme ça.
On l'aurait probablement couvert. On peut espérer qu'il aurait été protégé.
Vous, derrière, ce que vous décrivez, c'est la violence inouïe. Vous dites, ai-je tué quelqu'un, violé quelqu'un, braqué une banque, détourné de l'argent public ? Vous vous sentez traqué, seul ? Comment vous avez pu repartir ? Le tout est dans le livre, évidemment, ici, on n'a pas le temps de tout raconter. Comment vous êtes reparti, finalement ?
D'abord, ça a été une mise à l'écart du monde. Je me suis isolé, et puis surtout protégé auprès des miens, hein, ma femme, mes enfants. Et ça, c'était important pour moi de me reconstruire et de construire une image positive. C'est-à-dire que quand je dis que j'avais l'impression d'être un pestiféré ou un assassin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, une sorte de paranoïa que j'ai développée et qui m'a valu d'être vraiment très très mal. J'ai eu un soutien psychologique,
Psychologique,
bien sûr.
Mais aujourd'hui, vous êtes consultant à Canal+, vous avez remonté la pente. Dans le livre, il y a plein de pistes, hein, notamment sur comment faire évoluer l'arbitrage. Déjà, la vidéo, pour vous, ça ne réglerait pas tout.
Ça règle une partie du problème, ça ne règle pas, et c'est là aussi le sens du livre, c'est montrer ce que vivent les arbitres, mais pas que les arbitres de Ligue 1, parce que ça concerne 10 matchs, vidéo.
Bien sûr.
Mais il y en a 25 000 tous les week-ends. Et on fait quoi de ces 25 000 arbitres qui vont sur les terrains et qui sont seuls ?
4841 agressions d'arbitres amateurs l'année dernière. Vous plaidez quoi pour que les choses soient meilleures ?
Je crois qu'on doit d'abord mieux comprendre ce que vivent les arbitres, c'est aussi le sens du livre. En rentrant dans mon histoire, c'est une mise en abîme. Qu'est-ce que vivent les arbitres ? Moi, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien ?
Ils vivent les joueurs pollueurs, comme vous les appelez, qui tentent d'influencer l'arbitre. Et il faut garder son sang-froid, notamment.
Oui, c'est la grande difficulté, c'est qu'on doit toujours être en maîtrise de nos émotions. Mais on est des humains. Et un arbitre est d'abord un humain avec lequel on joue. C'est-à-dire qu'on le titille, on essaie de le provoquer. Et il doit toujours être maître de ses émotions. Ça, c'est une difficulté.
Diego Carlos, vous l'avez revu ?
Non.
Vous ne lui avez pas envoyé le livre dédicacé ?
Non, je ne suis pas dans la provocation.
Vous auriez pu mettre un mot très gentil pour lui dire voilà ma nouvelle vie, grâce à vous, Diego Carlos.
Oui, j'ai une nouvelle vie, et en fait, c'est aussi une sorte de leçon. C'est que fait-on de ses erreurs ? Et je pense qu'on peut construire sur ses erreurs, parce que, comme l'a dit un certain philosophe, l'erreur a aussi une vertu.
Tony Chaperon, enfin libre, itinéraire d'un arbitre intraitable. Merci beaucoup, chez Artaud. Merci à vous.
Merci, monsieur
Pugel. RTL soir, 18h47.
Allez, la météo, RTL Monde, et puis évidemment le journal de 19h.
RTL soir.